Plantons le décor juste un instant. On est au Congo. Il y a un père de famille qui est dans la cour d'une clinique et il est en train de clouer, planche après planche, un tout petit cercueil en bois.
Ah mon Dieu, c'est pour son enfant, j'imagine.
Ouais, exactement, pour son nouveau-né. Et à l'intérieur du bâtiment, t'as une sage-femme, une professionnelle qui a été formée par l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui se tient au-dessus du bébé mort-né.
D'accord, donc on n'est pas dans un contexte mystique, on est dans un vrai cadre médical.
C'est ça, le cordon ombilical était complètement enroulé autour du cou, la peau de l'enfant est déjà grise, enfin bref, c'est une tragédie médicale absolue, irréversible.
C'est terrible.
Mais attends, parce que pendant que le père termine la boîte en bois à l'extérieur, à l'intérieur, suite à une prière, le bébé se remet soudainement à respirer. Et ça, ça heurte de plein fouet notre rationalité moderne, n'est-ce pas?
Ah bah totalement. Ce récit défie genre l'intégralité de notre grille de lecture occidentale. C'est exactement le genre d'événement qu'on a très vite fait de classer dans la case des légendes urbaines, tu vois, ou des mythes d'un autre âge.
Sauf que ben, c'est pas un mythe antique, c'est un cas documenté qui implique des professionnels de santé moderne. Et c'est justement ce vertige cognitif qu'on va explorer aujourd'hui dans cette nouvelle plongée au cœur des textes.
Et je suis ravi d'être là pour en parler.
Et moi, je suis super intriguée par notre source du jour. On se base sur une conférence académique qui est vraiment fascinante, donnée par le docteur Craig Kinner.
Tout à fait.
Ses recherches portent en fait sur le livre biblique des Actes des apôtres, sur les récits de miracles qui y figurent, et surtout sur la stratégie de diffusion fulgurante de ce mouvement au premier siècle.
Et la force monumentale du travail de Kinner, c'est qu'il refuse complètement d'étudier ces textes anciens sous une cloche de verre stérile, quoi.
Comment ça?
Il s'est rendu compte qu'on ne peut pas comprendre l'impact sociologique de ces récits antiques si on ignore qu'aujourd'hui même, il y a des dizaines de millions de personnes qui rapportent des expériences identiques. Il a donc compilé des témoignages contemporains à travers le monde qui sont vérifiés et documentés.
C'est fou. Mais je précise tout de suite pour l'impartialité, notre objectif n'est pas du tout de faire de la théologie aujourd'hui. Il n'est pas question de valider ou d'invalider une doctrine religieuse spécifique, hein.
Non, bien sûr que non. L'idée, c'est de rester strictement sur les faits rapportés.
Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est d'étudier objectivement ces données historiques et sociologiques. On va décortiquer un peu l'algorithme de croissance de ces récits et comprendre pourquoi ces phénomènes creusent un fossé aussi gigantesque entre la philosophie occidentale et l'expérience vécue par le reste de la planète.
C'est un programme chargé, hein?
Grave. Et on va commencer justement par l'ampleur de ces données. Parce que on ne parle pas d'une petite poignée d'anecdotes isolées, là. L'échelle est tout simplement vertigineuse.
C'est le point de départ incontournable, tu vois. Kinner, il insiste sur le fait qu'une certaine élite académique fait une erreur monumentale en traitant le miracle comme une simple relique littéraire. L'histoire du bébé au Congo, ce bébé qui s'appelle Mille Grace d'ailleurs, racontée par la sage-femme Jeanne Mabiala, c'est qu'une goutte d'eau.
Juste une goutte d'eau. Mais il y a quoi d'autre?
Kinner documente des cas médicaux précis. Toujours en Afrique, au Cameroun, il y a le dossier clinique d'une petite fille, Olive, 6 ans. Elle est déclarée cliniquement morte à l'hôpital.
D'accord.
8 heures s'écoulent. 8 heures. Les médecins sont formels. Et ses parents, dans un acte de désespoir absolu, j'imagine, transportent son corps jusqu'au bureau d'un pasteur nommé André Mamadze.
8 heures après le décès, c'est insensé biomédicalement parlant.
Complètement. D'ailleurs, le pasteur adjoint, très pragmatique, s'y oppose et rappelle qu'une église, c'est pas une morgue, quoi. Mais Mama Denise insiste pour prier. Et pendant cette réunion, et c'est là que ça devient dingue, la petite fille sort de la pièce en marchant normalement devant des témoins complètement médusés.
Ah ouais. Ce qui me frappe dans cet exemple, c'est le frottement énorme entre l'institution médicale et l'expérience vécue, quoi. On a un décès clinique acté par des professionnels de santé, suivi d'une réanimation 8 heures plus tard. C'est vertigineux.
C'est le mot. Et les dossiers comme ça, il y en a plein.
La source mentionne aussi un autre cas au Congo, je crois, avec une histoire de morsure de serpent.
Ouais, l'histoire d'Antoinette Malombe. Sa fille de 2 ans se fait mordre par un serpent extrêmement venimeux. Dans ce village super isolé, il n'y a aucun antivénin disponible. L'enfant cesse carrément de respirer.
Oh là là!
La mère l'attache sur son dos, elle court à travers la brousse jusqu'à un village voisin pour trouver un évangéliste, un certain Coco Moïse. Il prie. Et là, l'enfant respire à nouveau. Mais le plus fou...
C'est pas fini, hein?
Non. Le plus fou, c'est que le lendemain, elle n'a plus aucun symptôme. Pas la moindre séquelle neurologique, ce qui est totalement improbable après un arrêt respiratoire dû à un venin.
C'est clair. Et la source précise un truc hallucinant sur ce cas d'ailleurs.
Ah oui, le fait que cette petite fille a grandi, a obtenu un master et se trouve être aujourd'hui la belle-sœur du docteur Kinner lui-même.
Sérieux ?
L'académicien se retrouve donc lié familialement à son propre objet d'étude, c'est incroyable. Ça ajoute une couche de proximité vraiment fascinante à sa recherche. Exactement. Et le truc, c'est que si on dézoome un peu, bah, ces phénomènes ne sont pas du tout cantonnés au continent africain. Les sources parlent de dynamiques similaires en Asie et en Océanie.
Avec des manifestations qui touchent carrément à la météorologie, il me semble.
Ouais, on change d'échelle là. En Chine, les recherches de Kinner mentionnent un événement historique autour de Watchman Nee, qui était un leader chrétien super influent. Une région entière subit une sécheresse catastrophique. Les villageois lancent un défi direct aux chrétiens.
Genre un défi religieux ?
Voilà. Ils affirment que leur divinité locale a toujours garanti qu'ils ne pleuraient jamais, au grand jamais, le jour de son festival annuel, et ce depuis plus de 2 siècles.
D'accord, l'enjeu est posé.
Les chrétiens se rassemblent et prient. Le jour de ce fameux festival, non seulement il pleut, mais une pluie torrentielle s'abat avec une telle violence, écoute bien, qu'elle emporte physiquement la statue de la divinité locale dans des rues inondées.
Mais non.
C'est le scénario d'un film, ça.
C'est fou, hein?
Et on trouve des récits miroirs en Papouasie-Nouvelle-Guinée aussi. Lors d'une sécheresse dévastatrice, un puits tari depuis des lustres qui n'était plus qu'un vague trou de boue craquelée s'est retrouvé rempli à ras-bord d'une eau limpide au petit matin, juste après les prières d'un responsable local nommé Kandiwa.
Arrêtons-nous une petite seconde sur l'aspect statistique de tout ça. Parce que si j'entends ces histoires une par une, mon réflexe sceptique naturel, c'est de me dire « bon, il y a eu une erreur de diagnostic ou une coïncidence météorologique rarissime, tu vois ?»
C'est le réflexe logique, oui.
Sauf que les chiffres balayent complètement l'idée de la petite anecdote rare.
Ah ben, c'est là que le travail académique de fond prend tout son sens. Kinner cite une étude menée en 2006 par le très respecté Pew Forum. C'est pas rien. Ils se sont penchés sur seulement 10 pays.
Seulement 10.
Et les chiffres donnent quoi ?
Dans cet échantillon, environ 200 millions de chrétiens de mouvements charismatiques déclarent avoir été personnellement témoins ou bénéficiaires de guérisons divines inexpliquées. 200 millions.
C'est gigantesque.
Et le phénomène déborde largement cette sphère spécifique. 39% des chrétiens non charismatiques dans ces mêmes pays rapportent avoir vu exactement la même chose.
Et dans les pays qu'on considère comme occidentaux ou développés ? Même dans un pays hyper industrialisé comme les États-Unis, 34% de la population globale affirme avoir expérimenté ou observé une guérison surnaturelle. Et en Chine, les estimations sociologiques suggèrent que 50 à 90% des conversions au christianisme dans les zones rurales sont directement déclenchées par l'observation de ces expériences de guérison.
Je voudrais poser une analogie ici, parce que le contraste de traitement dans le monde académique est juste sidérant.
Je t'écoute.
Si des centaines de millions de personnes, sur plusieurs continents, rapportaient avoir observé, je sais pas moi, un phénomène météorologique non répertorié ou une anomalie astrophysique bizarre dans le ciel...
Ah, on mettrait le paquet ?
Mais carrément ! La communauté scientifique mondiale exigerait des budgets colossaux. On déploierait des satellites, on organiserait des colloques internationaux à Genève pour comprendre cette anomalie. Mais ici, face à des centaines de millions de témoignages qui impliquent une distorsion apparente de la biologie ou de la physique, ben c'est le silence radio.
C'est tout à fait ça.
C'est comme s'il y avait un immense pare-feu intellectuel en Occident qui filtrait ces données avant même qu'elles n'atteignent le moindre laboratoire.
Et juste avant d'analyser ce fameux pare-feu, il est crucial d'ajouter une petite nuance apportée par Kinner, pour être bien clair.
Laquelle ?
Il précise que ces témoignages massifs ne sont en aucun cas une validation pour rejeter la médecine moderne. La mortalité maternelle et infantile demeure tragiquement élevé dans bon nombre de ces régions.
Ouais, il ne s'agit pas de remplacer les hôpitaux par des prières, on est d'accord.
Voilà, Kenner est très clair là-dessus. Quand on peut construire des hôpitaux et apporter de l'équipement médical, c'est la priorité absolue. Dans cette grille de lecture, le miracle n'est pas du tout conçu comme un système de santé publique de remplacement. C'est plutôt un marqueur spécifique, une anomalie ponctuelle qui pointe vers autre chose.
Ce qui nous ramène direct à ce pare-feu intellectuel dont on parlait, si toutes ces expériences sont rapportées par des centaines de millions de témoins oculaires sains d'esprit, pourquoi la culture intellectuelle occidentale s'obstine-t-elle à les rejeter par défaut ? Comment on a pu construire cette architecture de l'indifférence ?
Eh bien, ce pare-feu y porte la signature de 2 penseurs majeurs qui ont littéralement codé le logiciel intellectuel de l'Occident moderne.
Ah ouais, lesquels ?
Le premier, c'est David Hume, la grande figure de proue des Lumières au XVIIIe siècle. L'argument de Hume il est devenu la norme absolue. Il stipule que les miracles sont, par définition, des violations des lois de la nature.
Logique jusqu'ici.
Sauf qu'ensuite, il dit que l'expérience humaine démontre que les lois de la nature sont uniformes et inviolables. La conclusion mathématique de Hume, c'est donc que les miracles n'existent tout simplement pas.
Attends, mais en regardant de près, c'est un raisonnement qui tourne complètement en rond? C'est un argument circulaire?
Exactement.
Il définit au préalable l'expérience humaine comme excluant tout miracle, pour ensuite s'en servir comme preuve que les miracles n'appartiennent pas à l'expérience humaine. Enfin, il verrouille la conclusion dans la prémisse, c'est de la triche intellectuelle.
C'est précisément la faille logique béante que les philosophes des sciences modernes lui reprochent aujourd'hui. La méthode de Hume consistait, en gros, à écarter systématiquement toute preuve qui contredisait son postulat de départ. Et Kainer met en lumière un cas d'école historique super parlant.
Ah oui, je l'ai lu dans la source, c'est l'histoire de la nièce de Blaise Pascal, c'est ça?
Oui, la nièce du brillant scientifique et philosophe Blaise Pascal. Cette jeune fille souffrait d'un ulcère à l'œil. Mais pas un petit truc, hein, un ulcère purulent, organique, très visible par tout le monde. Et elle a été guérie de façon instantanée et publique au contact d'une relique.
D'accord, mais en quoi ça démonte Hume?
Le point crucial ici, c'est que cette guérison, c'était pas une vague rumeur de village. Elle a été documentée cliniquement et authentifiée par le médecin personnel de la reine-mère de France en personne. Et pourtant, David Hume a balayé ce dossier médical, hyper solide, d'un simple revers de main.
Mais pourquoi? Comment un grand philosophe rationaliste peut-il ignorer un rapport médical formel?
Pour des raisons de base politique, tout simplement, et de sectarisme idéologique.
C'est-à-dire?
La nièce de Pascal appartenait au mouvement des jansénistes. C'était un courant chrétien dissident, très rigoureux, que les élites de l'époque, et Hume en particulier, considéraient comme des fanatiques illuminés, indignes de confiance. Hume a donc invalidé la donnée médicale uniquement parce qu'il détestait l'étiquette théologique des témoins.
C'est de la mauvaise foi pure et simple, en fait.
Totalement. Mais il y a encore plus troublant dans la mécanique de pensée de Hume, et la source en parle. C'est son ethnocentrisme viscéral.
Oui, les sources abordent effectivement ce mépris racial. Comment ça influençait sa philosophie des miracles, au juste?
Eh bien, Hume écrivait noir sur blanc que seules les nations blanches avaient été capables de produire des civilisations, des sciences ou des arts dignes de ce nom. Il effaçait purement et simplement de l'histoire les empires complexes d'Afrique, d'Asie ou des civilisations précolombiennes.
D'accord, le contexte de l'époque, mais c'est violent.
Et Kainer rappelle une anecdote très frappante. On avait présenté à Hume les œuvres d'un érudit jamaïcain Francis Williams, qui écrivait de la poésie originale, très poussée. La réaction de Hume, il a dit que c'était sans doute comme un perroquet qui aurait appris à répéter quelques mots.
Oh, waouh, c'est d'un racisme glaçant.
C'est ça. En clair, quand le grand philosophe des Lumières affirme solennellement que, je cite, « l'expérience humaine exclut les miracles », la traduction exacte de sa pensée, c'est « l'expérience de mon tout petit cercle de l'élite blanche européenne exclut les miracles. Toute expérience qui vient d'autres cultures est invalidée d'office. »
Je comprends beaucoup mieux la déconstruction de Hume, là. Ses préjugés raciaux et politiques discréditent totalement son objectivité.
Absolument.
Mais là, il faut quand même que je fasse mon travail d'avocate du diable. Notre scepticisme moderne, il repose pas uniquement sur du racisme ou des préjugés du XVIIIe siècle. Il repose sur des siècles de vraies victoires scientifiques. La microbiologie a prouvé que des maladies qu'on croyait démoniaques sont en fait causées par des bactéries. On a inventé les vaccins, les antibiotiques.
Bien sûr, la science a fait un travail formidable de démystification.
Ce qui m'amène directement au deuxième grand penseur de notre source, le théologien du XXe siècle, Rudolf Bultmann. Son argument est hyper célèbre. Il disait, en substance, qu'il est impossible de se servir de l'électricité ou de la radio et de continuer à croire au monde des esprits. Et honnêtement...
C'est tentant d'être d'accord.
Ben oui, cet argument résonne. Il semble relever du pur bon sens, non?
C'est un argument très séduisant, c'est vrai. Mais il repose sur une confusion fondamentale entre la méthode scientifique et la présupposition philosophique.
C'est quoi la différence exacte dans ce contexte?
La science, c'est une méthode d'investigation, d'accord? Elle observe la réalité, et si une donnée anormale survient, comme une guérison inexpliquée, la méthode exige d'étudier cette anomalie, même si ça dérange les théories en place. Bultmann, lui, il impose une présupposition philosophique.
Il décide avant de chercher.
Voilà, il décide en amont de ce qui a le droit d'exister dans la réalité. Et les chercheurs cités dans les sources comme Philip Jenkins ou le théologien asiatique Wayong, ils pulvérisent ce mythe bultmannien en observant simplement le monde contemporain.
C'est-à-dire, comment ils démontrent que Bultmann se trompe concrètement?
en regardant tout simplement l'hémisphère sud, l'Afrique, l'Asie. Dans ces régions, t'as des ingénieurs, des médecins, des professionnels de haut vol, qui utilisent les technologies les plus pointues, de l'intelligence artificielle aux biotechnologies, et ça cohabite très harmonieusement dans leur esprit, avec une vision du monde qui inclut l'action directe du surnaturel.
Ah, donc l'un n'exclut pas l'autre.
L'idée selon laquelle la maîtrise de la technologie annule automatiquement l'expérience du surnaturel, c'est un fantasme culturel strictement européen, en fait. Ce n'est absolument pas une loi incontournable de l'évolution de la conscience humaine, contrairement à ce que Bultmann affirmait.
Ce qui est vraiment fascinant, je trouve, en replaçant tout ça dans un contexte historique global, c'est de réaliser que ce choc frontal entre un scepticisme d'élite et des revendications miraculeuses, ça n'a absolument rien d'inédit.
Non, ça date de très longtemps.
C'est très exactement le terreau sur lequel le christianisme primitif a germé au tout premier siècle. Et c'est ce que révèle de manière éclatante l'architecture littéraire du livre des Actes des Apôtres. C'est le miroir antique parfait de notre situation contemporaine. C'est dingue.
C'est une observation clé, oui. Faut se rappeler que l'auteur de ce texte biblique, Luc, c'était un médecin de formation et un historien. Il ne se contente pas de jeter des anecdotes de guérison en vrac sur un parchemin. C'est une œuvre d'une ingénierie littéraire et rhétorique redoutable.
Il devait convaincre un public difficile.
Exactement. Il a dû concevoir son texte sur mesure pour contourner le mur de scepticisme de ses propres lecteurs romains et grecs de l'époque, qui étaient très éduqués et très cyniques.
En lisant l'analyse de Kinner, la mécanique narrative m'a vraiment frappée. C'est exactement la même logique qu'une grande série télévisée de prestige aujourd'hui, tu vois ?
Comment ça, une série ?
Mais Luc ne fait pas qu'archiver des faits. Il agit comme un vrai showrunner. Il est le grand architecte d'une narration complexe. Il utilise des motifs récurrents, des échos thématiques, pour démontrer à son public que la force invisible qui propulsait les premiers personnages continue d'agir à travers la nouvelle génération. C'est du storytelling de génie.
C'est le terme exact, oui. Une architecture narrative. Kinner détaille d'ailleurs ses symétries minutieuses. Prenons le tout début de l'histoire, par exemple, avec les interventions de l'ange Gabriel.
Qu'est-ce qu'il fait avec ça ?
Luc crée un contraste délibéré et très politique. D'un côté, il place Zacharie, un prêtre érudit, au cœur de l'institution religieuse suprême, le grand temple de Jérusalem. Face au message de l'ange, le prêtre doute de sa faisabilité.
Et il perd la voix, c'est ça ?
Voilà, il est rendu muette. Et de l'autre côté, en contraste total, Luc place Marie, une jeune paysanne sans aucun statut, dans un petit hameau oublié de tous. Elle croit le message simple, mais elle est louée pour ça.
Je vois la manœuvre. L'auteur signale d'emblée à ses lecteurs que l'accès à cette réalité surnaturelle, ça dépend pas du tout du statut académique ou de l'institution.
Exactement. C'est un avertissement au lecteur snob. Ensuite, Luc tisse des parallèles massifs tout au long de l'œuvre, entre la trajectoire de Jésus, celle de l'apôtre Pierre et celle de l'apôtre Paul.
Oui, les ressemblances sont impossibles à ignorer. À chaque fois, c'est le même motif récurrent. L'Esprit Saint descend sur eux de façon visible avant qu'ils ne commencent leur mission.
Et regarde aussi comment l'auteur décline la mécanique des guérisons. Il crée une gradation étonnante, presque choquante pour la rationalité.
Vas-y, explique.
Dans les évangiles, on rapporte qu'une femme est guérie en touchant la bordure du vêtement de Jésus. Bon, dans les actes, le phénomène s'étend et devient encore plus bizarre. Des malades sont guéris simplement lorsque l'ombre de Pierre passe sur eux dans la rue.
Juste son ombre.
Juste son ombre. Et plus tard, à Éphèse, ce sont des morceaux de tissu, des tabliers de travail imbibés de la sueur de l'apôtre Paul qui sont portés aux malades et provoquent des guérisons.
Des tabliers pleins de sueur ?
C'est très brut comme image.
C'est fait exprès.
Les vecteurs physiques changent, le vêtement, l'ombre, la sueur, mais le message de l'auteur est super clair. C'est la même source d'énergie brute qui continue de saturer le monde physique, peu importe le canal.
Et Luc s'assure également de mettre en scène les sceptiques de l'époque, pour montrer qu'ils se heurtent à un mur. Les sources expliquent que Jésus, puis Pierre, puis Paul, finissent tous immanquablement devant le Sanhédrin.
Le tribunal suprême, oui.
Et Kenner précise bien qui dirigeait cette cour suprême. C'était les Sadducéens. Et il faut vraiment expliquer qui ils étaient, car c'est crucial pour notre parallèle. Les Sadducéens, c'était l'aristocratie religieuse de l'époque, des rationalistes purs et durs, qui rejetaient toute idée d'ange, d'esprit ou de résurrection corporelle. En gros, c'était les ancêtres spirituels de Bultmann.
C'est une excellente comparaison, oui. En les affrontant narrativement, Luc montre que le mouvement a survécu à l'élite sceptique de son propre temps.
Et pour rassurer son lecteur romain, Luc utilise une autre astuce narrative brillante, non ? La validation par l'Empire lui-même.
Tout à fait. Lors de la crucifixion de Jésus, c'est un centurion romain, le symbole ultime de l'ordre impérial et de la rationalité militaire, qui déclare publiquement l'innocence du condamné.
Et ça se répète plus tard.
Oui. Des années plus tard dans le texte, c'est un autre centurion romain qui sauve la vie de Paul et atteste de son intégrité de citoyen. Luc dit en filigrane à ses lecteurs de la haute société « Regardez, même l'empire le plus rationnel, le plus juridique et le plus brutal au monde a été contraint de valider le caractère exceptionnel de ces hommes. »
Cette idée de validation, ça nous fait basculer vers la toute dernière étape de notre exploration, la mécanique même de la croissance. Parce que ces récits de miracles, validés par le texte, c'était pas juste des feux d'artifice spirituels pour impressionner les foules le dimanche.
Non, ça avait une utilité très stratégique.
Les sources montrent que ces phénomènes fonctionnaient comme le détonateur d'une stratégie de diffusion d'une efficacité carrément mathématique.
C'est vraiment le cœur de l'analyse sociologique de Skinner. Il démontre que le livre des Actes décrit en fait l'algorithme original de la croissance virale, bien avant Internet.
Et il illustre ça comment ?
Par une équation mathématique très simple, l'addition contre la multiplication. Si on adopte une stratégie d'addition, imaginons qu'un leader charismatique parvienne à convaincre 2 nouvelles personnes par an. Bon, la croissance existe, mais elle est lente, elle est fastidieuse, elle est linéaire.
Mais la stratégie que déploie Paul, dans tout le bassin méditerranéen, c'est pas du tout l'addition, c'est la multiplication radicale.
Exactement. Il cherche pas juste à faire des convertis pour remplir des salles, ça ne l'intéresse pas.
Il recrute et forme des leaders locaux qui, à leur tour, pourront fonctionner en totale autonomie. C'est le principe de la duplication.
Et le calcul mathématique de cette stratégie de multiplication, ça donne le vertige. Si on commence avec une seule personne, d'accord, et que cette personne forme 2 autres individus en une année, et que ces 2 personnes en forment 2 autres l'année suivante,
la courbe devient exponentielle.
Très vite. Skinner précise qu'avec ce rythme mathématique, en seulement 15 ans, le réseau touche plus de 11 millions de personnes.
11 millions en 15 ans, sans réseaux sociaux. Et après ?
En 22 ans, avec ce taux de doublement constant, on dépasse les 16 milliards de personnes, ce qui excède largement la population humaine totale d'aujourd'hui, t'imagines ?
C'est fou.
C'est la raison pour laquelle Paul risquait carrément sa vie pour retourner dans des villes comme Lystre ou Iconium, des endroits d'où il avait pourtant été chassé à coups de pierre. Il devait y retourner coûte que coûte pour nommer des anciens, établir des cellules autonomes. La survie à long terme du réseau en dépendait.
C'est littéralement la puissance des intérêts composés appliqués à la sociologie des mouvements de base. Mais attends, pour qu'un message se multiplie aussi vite sur des territoires culturellement si différents, de la Grèce à l'Asie du Moyen-Orient, il faut franchir la barrière de la langue. Et je parle pas seulement de dialectes locaux, je parle de la barrière des concepts mêmes.
C'est un défi énorme, oui.
C'est là que l'analyse de Skinner sur la méthode de communication de Paul devient brillante. Comment il a fait concrètement pour que son message soit compris de tous, de l'esclave au philosophe ?
Par une méthode de contextualisation poussée à l'extrême, Paul avait l'intelligence d'auditer culturellement son public avant d'ouvrir la bouche.
Un vrai communicant.
Quand il entre dans une synagogue, en milieu juif, il se positionne en érudit rabbinique, il déroule des arguments basés sur l'histoire d'Israël, il cite les textes sacrés, bref, il parle le langage d'autorité de son auditoire.
Ça marche pour les juifs, oui.
Mais regarde ce qui se passe quand il arrive à Lystre. Là, il est face à une population d'agriculteurs païens qui n'ont absolument jamais entendu parler d'Abraham, de Moïse ou de la Torah. S'il leur cite les prophètes hébreux, ben, il les perd en 10 secondes.
Alors qu'est-ce qu'il fait ?
Il ne cite absolument aucun texte sacré. 0. Il adapte son langage à leur réalité de terrain. Il leur parle de la pluie venue du ciel, du cycle des saisons fleurissantes, des récoltes qui remplissent les cœurs de joie. Il connecte son message directement à leur quotidien agraire.
C'est super malin. Et quand il arrive à Athènes, alors là, sur l'Aréopage, le grand tribunal philosophique et intellectuel de la cité, l'épicentre du snobisme antique, la stratégie change encore radicalement, j'imagine.
Ah bah absolument. Face aux stoïciens, aux épicuriens, leur parler de récolte ou de rabbin, ça n'aurait eu aucun sens, il lui aurait rionné. Sur l'Aréopage, il utilise la logique dialectique, il déploie la rhétorique classique, et il va même jusqu'à citer de mémoire leur propre poète grec pour valider son argumentaire.
Ils pirataient leur propre système philosophique de l'intérieur.
Et Skinner souligne une autre tactique fascinante qui s'est passée à Éphèse. Paul décide de louer un espace dans l'école d'un philosophe nommé Tyrannus pour y enseigner tous les jours.
Pourquoi une école de philosophie ? Point d'interrogation. C'est un détail qui semble mineur comme ça, mais qui explique le comment de cette diffusion, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Faut comprendre la perspective des Romains et des Grecs de la rue. pour eux, une vraie religion, ça impliquait de grands temples en marbre, des autels massifs pour cramer de l'encens, des prêtres en tenue officielle hyper codifiée et bien sûr des sacrifices d'animaux.
Or, les premiers chrétiens n'avaient rien de tout ça.
Exactement, rien du tout. Pour un observateur romain moyen, ce mouvement ressemblait soit à de l'athéisme pur, soit à une secte très étrange et subversive.
Donc, en s'installant dans l'école de Tyrannus...
En s'y installant, Paul emprunta un format social qui était parfaitement lisible et respectable pour l'Antiquité, le modèle de l'école philosophique où un maître débattait d'idées nouvelles avec ses disciples. Il a ainsi fourni une enveloppe de légitimité culturelle énorme à son mouvement.
Pour utiliser une métaphore informatique, c'est comme si Paul avait développé un code source incroyablement puissant, mais qu'il comprenait qu'il fallait absolument le recompiler pour chaque nouvelle machine.
C'est une très bonne image, ça.
Face aux Grecs de l'aréopage, il crée une interface compatible iOS, tu vois, un truc très design, très philosophique et épuré. Et pour les agriculteurs de l'Istre, il fournit une version Linux, un truc plus brut, lié à la terre et aux éléments naturels.
J'adore l'analogie.
Le noyau dur, le message central de son code, ne subit aucune altération. Mais l'interface utilisateur est entièrement repensée à chaque fois pour minimiser la friction cognitive de ceux qui écoutent. Et c'est ça qui a permis à un petit mouvement né dans les collines reculées de Galilée de pirater culturellement tout l'Empire romain en l'espace de quelques décennies à peine.
C'est une excellente synthèse, vraiment. Et cette capacité d'adaptation caméléon, couplée à ces manifestations rapportées de puissance surnaturelle, ça forme la double hélice de l'ADN de cette croissance historique inouïe.
Eh bien, quel parcours intellectuel on vient de faire aujourd'hui ? On est parti d'une petite chambre d'hôpital au Congo, avec des témoignages biomédicaux inexplicables, pour remonter jusqu'à la condescendance raciale et intellectuelle de philosophes comme David Hume.
On a couvert du terrain.
C'est clair. On a démonté ensemble le mythe tenace selon lequel la technologie éteindrait forcément la croyance, pour finalement découvrir comment ces mêmes dynamiques propulsaient la croissance exponentielle d'un mouvement antique.
Si on doit retenir une chose de ces sources et du travail de Kinner, c'est que refuser de regarder une donnée simplement parce qu'elle fait exploser notre grille de lecture confortable, c'est choisir de rester intellectuellement aveugle face à la complexité fascinante du monde.
Je suis 100% d'accord. La véritable curiosité académique exige d'avoir le courage d'étudier les anomalies d'où qu'elles viennent, plutôt que de construire des forteresses conceptuelles pour s'en protéger par peur.
Exactement.
Et pour conclure notre exploration, je voudrais qu'on revienne un instant sur ce fameux postulat de Bultmann dont on a parlé.
Celui sur l'électricité ?
Ouais. Il disait que la lumière électrique nous empêchait de voir le surnaturel. Aujourd'hui, on est bien d'accord que notre environnement technologique est infiniment plus envahissant qu'une simple ampoule au plafond. Nos écrans, nos informations, nos interactions sociales sont filtrées seconde après seconde par des algorithmes d'intelligence artificielle de plus en plus opaques.
C'est une réalité quotidienne, oui.
Et ces systèmes, ils sont conçus par définition pour optimiser notre confort cognitif et nous enfermer dans nos propres bulles de certitude, on le sait tous.
Ils nous montrent ce qu'on veut bien voir.
Voilà. Alors, on est en droit de se poser cette question vertigineuse. Si la technologie primaire du XXe siècle servait déjà d'excuse pour ignorer certaines réalités dérangeantes, quelles dimensions entières, quelle profondeur de l'expérience humaine notre hyperconnectivité algorithmique actuelle est-elle en train d'effacer de nos écrans sans même qu'on s'en rende compte ?
C'est une excellente question. On filtre la réalité avant même de l'apercevoir.
Exactement. Peut-être qu'aujourd'hui, le sceptique qui rejette la preuve avant le procès n'est plus un philosophe du XVIIIe siècle en perruque, mais simplement l'algorithme invisible qui gouverne nos vies. C'est une réflexion fascinante à méditer.